Plenel sur Wikipédia. De son nom complet, Hervé Edvy Plenel, journaliste politique français, né le 31 août 1952 à Nantes, Loire-Atlantique. Il est directeur de la rédaction du quotidien Le Monde de 1996 jusqu'à sa démission en novembre 2004, en désaccord avec les orientations prises par le journal et le groupe dirigé à l'époque par Jean-Marie Colombani et Alain Minc. Il est remercié le 31 octobre 2005 après avoir travaillé 25 ans dans la rédaction du quotidien. Il a depuis cofondé le site Mediapart, journal payant accessible sur Internet, qui a ouvert le 16 mars 2008. Présent à Montpellier en tant qu'enseignant, Edvy Plenel nous a accordé le 21 octobre 2011 un entretien d'une quarantaine de minutes. Sur les nouveaux outils d'expression et d'information, sur la remise en question des pratiques dans les médias, se battre pour avoir le meilleur écosystème possible de l'information en France, sur une contagion de la transparence dans un réseau libre, ouvert et neutre, sur notre période de lutte, de nouveaux modèles pour en sortir, logiciels libres et modèles économiques, le cas de Mediapart, qui fonctionne avec un logiciel libre, Drupal, l'emploi des journalistes dans ce contexte, se renouveler en permanence, innover technologiquement mais aussi socialement, création du syndicat de presse indépendante d'information en ligne, et enfin un mot sur notre France, une conversation de résistance et d'amitié, publiée dans la collection Sinbad chez Actes Sud. Edvy Plenel, bonjour et bienvenue sur Divergence.
Bonjour.
Vous êtes à Montpellier de temps en temps, assez régulièrement, non pas en tant que rédacteur, journaliste et j'en passe, mais en tant qu'enseignant, puisque vous êtes professeur associé à la fac de droit, pour enseigner diverses disciplines autour du journalisme. C'est tenu il y a quelques jours à l'hôtel de région un forum autour des médias citoyens. Alors évidemment, vous-même, après votre long parcours dans la presse écrite quotidienne et puis maintenant Mediapart, vous êtes un petit peu au cœur de ce changement, de cette mutation des moyens qu'ont les gens pour dire les choses, pour pas employer justement le mot de journalisme.
Si vous voulez, moi je crois qu'on vit avec le numérique, hein, qui est donc le vecteur d'un journal comme Mediapart, on vit grâce à cet outil et à condition qu'on le tire vers le haut, une révolution démocratique. Cette révolution démocratique, c'est que le journalisme est descendu de son estrade. Il est descendu de cette position de surplomb où il était par rapport à des lecteurs qu'il ne voyait pas, qu'il faisait parler à sa place. Et là, désormais, il est obligé de composer avec eux. Hein, le professionnel est face à l'amateur, le journaliste est face au citoyen. Et loin d'être une menace pour le journalisme, moi je pense que c'est un moyen de ressourcer notre métier. Ça remet les journalistes à leur place, à leur juste place. Nous nous étions emparés de manière indue d'un droit qui ne nous appartient pas, qui est la liberté d'expression, le droit d'opinion, ça c'est le droit des citoyens. En revanche, il y a une compétence des journalistes qu'il faut toujours défendre dans cette dialectique avec un public qui nous prolonge, qui nous discute, qui nous critique, qui nous interpelle. Cette compétence, eh bien, c'est un métier qui est celui de produire des vérités, au pluriel, de fait, des informations vérifiées, recoupées par l'enquête, par le reportage, par l'analyse, y compris des informations qui vont nous déranger. Parce que, au fond, l'intérêt d'une information, c'est qu'elle nous amène à réfléchir, à discuter. Et donc, voilà, donc dans cette Mediapart, si vous voulez, moi, je n'ai pas changé de principe. Hein, je défends les valeurs d'un métier. Mais je pense qu'il faut défendre cette tradition, le meilleur de la tradition, au cœur de cette modernité qu'incarne le numérique, qui est celle de médias participatifs, qui est celle d'un journalisme du lien, puisque le lien hypertexte est au cœur de l'invention numérique, et qui oblige donc, je le redis, à être dans cette confrontation, dans cette nouvelle relation avec nos propres lecteurs.
Vous citiez le fait que justement, il y a une remise en question aussi de la profession qui a été un peu
imposé par ce mode de communication, le réseau libre et neutre et ouvert. On a quand même le sentiment, alors surtout nous en radio, d'une double chose. D'un côté, que les formats, la courteté des espaces dévolus à l'information, ça fait un peu des effets d'annonce d'une minute trente qui se succèdent. Et puis au bout du compte, bah, finalement, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? C'est l'effet 20 heures, on va dire. Il y a ça qui est imposé par les modèles économiques, publicitaires, etc., dans certains médias, ou par des orientations rédactionnelles discutables dans d'autres médias. Et en même temps, dans la société civile, il y a des gens qui parfois font montre de plus de vocabulaire, plus d'érudition et parfois même plus d'honnêteté que dans certains. Dans certaines façons de s'exprimer sur certains médias. Je ne dis pas que tous les médias, mais bon, voilà, il y a des programmes qui quand même posent cette question. Est-ce que finalement, ce n'était pas nécessaire aussi qu'il y ait un peu un afflux comme ça de citoyenneté dans les modes d'expression pour bousculer un peu ces habitudes?
Bien sûr, mais il faut... l'information est un bien public et donc il est normal que les citoyens bousculent, exigent, réclament. Et quant aux médias, moi, je ne dirais pas les médias en général, je pense qu'après, c'est une question d'écosystème. D'abord, il faut que les citoyens se battent pour qu'on ait le meilleur écosystème possible de l'information dans notre pays. C'est pas les citoyens contre les professionnels et les journalistes.
Mais justement pas.
Et si vous voulez, je vais prendre une image écologique. Quand la mer est polluée, vous dites pas aux poissons « Bravo, vous êtes courageux d'arriver à nager dans une mer polluée ». Vous vous occupez de dépolluer la mer. Moi, j'entends souvent sur Mediapart des gens venir nous dire « Ah, bravo, vous êtes courageux !» Parce que nous, c'est tout l'inverse de ce que vous venez de décrire. Mmh. On fait un journalisme documenté, un journalisme long. On montre que Internet n'est pas condamné au format court, à la superficialité, à l'instantanéité, loin de là. Et on fait un journalisme indépendant qui ne dépend que de ses lecteurs, par l'abonnement des lecteurs et qui est sans publicité et totalement indépendant des pouvoirs politiques et des puissances financières. Donc, je trouve ça très bien qu'on nous dise « vous êtes courageux ». Mais en fait, c'est un compliment qui me dérange. Parce que je ne trouve pas normal une démocratie où on attende que les journalistes soient courageux. Il faut, et c'est pour ça que j'emploie cette image de l'écosystème, faut créer les conditions pour que les journalistes puissent faire normalement leur travail. Qu'ils n'aient pas besoin d'être audacieux pour défendre ce qui nous appartient, le droit à une information honnête, loyale, pluraliste, sincère. Parce que si les journalistes sont le dos au mur, de plans sociaux en plans sociaux, si les journalistes du service public voient leur patron nommé par le président de la République, si les journalistes des médias privés, ce qui est, nous sommes la seule démocratie à être dans ce cas, ont comme actionnaires des industriels qui n'ont rien à voir avec les métiers de l'information, qui sont marchands d'armes, qui sont industriels du luxe, qui sont industriels du bâtiment et des travaux publics, qui sont industriels du contrôle de l'import-export et des ports africains dans un négoce souvent douteux et qui est lié au pillage de l'Afrique. Et j'ai nommé là tous les acteurs que nous connaissons des médias privés en France. Eh bien, tout ça est un écosystème corrompu, malsain. C'est la mer polluée dont je parlais. Et donc, il faut changer cette donne. Nous avons une année présidentielle devant nous. Je pense que dans cette année présidentielle, à l'heure de la révolution numérique, qui est comme toute révolution industrielle, s'accompagne à la fois d'une crise économique, mais aussi d'espérance démocratique et politique. C'est l'heure des révolutions arabes, démocratiques et sociales qui ébranlent la Méditerranée. Eh bien, dans ce moment-là, il nous faut, en France, nous battre pour une nouvelle loi pour la liberté de l'information qui refonde l'écosystème de cette liberté. Je prends un exemple. Le numérique, aujourd'hui, eh bien, il nous faut défendre le droit d'accès au numérique. Le droit au libre accès comme un service public d'accès au numérique pour qu'il ne soit pas soit contrôlé par la puissance étatique qui empêche le bouillonnement de liberté sur le numérique et sur la toile et d'autre part qu'il ne soit pas aux mains uniquement de puissance économique et financière. Donc c'est comme ça qu'on retrouvera un journalisme de qualité. C'est comme ça que les journalistes ne seront pas seulement soumis à l'audimat. C'est comme ça qu'ils auront l'audace de traiter les nouvelles importantes, les nouvelles qui dérangent, les nouvelles qui bousculent. Donc, il y a cette demande que vous disiez de la société, mais il ne faut pas compter uniquement sur la demande de la société. Il faut aussi se donner les conditions que ce soit meilleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, attention à quelque chose, la société exprime des demandes qui sont liées à des convictions militantes, à des engagements. Et c'est très légitime d'avoir des engagements. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de penser politiquement juste pour un fort mais vrai. Et comme le disait Nietzsche, l'ennemi le plus redoutable de la vérité n'est pas le mensonge, c'est parfois les convictions. Parce qu'une information doit parfois déranger mes convictions pour me faire réfléchir, pour me dire « c'est pas tout à fait comme je pense ». Si je prends une famille politique dans toutes ses composantes comme la gauche, le XXe siècle a rendu orphelins beaucoup de militants de gauche, notamment ceux qui ont épousé l'idéal communiste, parce qu'ils ont accepté que l'on mente au nom de cet idéal. Ils ont accepté que l'on dise « la ligne juste l'emporte sur l'information vraie ». Que l'on dise qu'il n'y avait pas le goulag, qu'il n'y avait pas de camp, qu'il n'y avait pas les procès de Moscou étaient des vrais procès, alors que c'était des impostures. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est très important qu'il y ait les conditions que surgisse une information qui va vous déranger, me déranger.
C'est amusant parce qu'en même temps, c'est vrai que l'époque à laquelle vous faites allusion, il n'y avait pas la révolution d'Internet. Aujourd'hui, on est dans un double paradoxe où il y a la révolution d'Internet, mais en même temps, on a la furieuse impression qu'on assiste à ce double discours de la part des gouvernements ou de l'Europe, ou etc., où on nous dit cette pomme est verte alors que sous nos yeux, elle est bien rouge.
Ils ont peur de ce bouillonnement. On l'a vu dans les polémiques autour de Wikileaks. Mediapart est partenaire de Wikileaks. Et immédiatement, quand Wikileaks a rendu public des informations d'intérêt public et par des documents qu'il mettait en ligne, grâce à ce média sans frontières, autre que la langue, avec ce côté David contre Goliath, ces stratégies du faible au fort qui peuvent ébranler la puissance et le pouvoir uniquement par la force des informations, de celui qui dit, comme le fou du roi, que le roi est nu. Et du coup, ça permet au peuple de se dire « Mais bon Dieu, je peux être courageux, le roi est nu, le roi est faible ». C'est les télégrammes, par exemple, sur la corruption des régimes arabes et du régime de Ben Ali qui ont eu un impact très important en Tunisie. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le discours des sachants, des pouvoirs, des experts, de ceux qui ne veulent pas être dépossédés, de ceux qui s'arrogent de parler le pouvoir de parler en notre nom? Tout de suite, ils ont brandi ce mot de transparence en disant « Wikileaks, c'est une transparence totalitaire ». C'est l'inverse. Les pays totalitaires, c'est l'opacité sur le pouvoir d'État et la transparence sur les individus. Nous, ce que nous défendons, c'est que tout ce qui est d'intérêt public doit être transparent. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Tout ce qui est fait au nom du public doit être public. C'est ça qui leur fait peur. Alors qu'eux mettent plein de caméras de surveillance dans les rues ou espionnent nos ordinateurs et ou espionnent les sources des journalistes, tout ce que nous avons révélé tous ces derniers temps. Et donc, il y a là un vrai enjeu. C'est qu'ils ont bien vu qu'avec le numérique, il y a la possibilité, en effet, d'un bouillonnement démocratique de l'information qui est porté par une révolution technologique, mais qui rejoint un idéal politique très ancien. Vous savez, au moment de la Révolution française, ce qu'il y avait comme bouillonnement, on appelait ça les nouvelles à la main. C'était l'ancêtre des blogs. C'est-à-dire que les citoyens, qui ne pouvaient pas tous se payer une imprimerie, payer un journal en l'occurrence pour aujourd'hui, ils faisaient en recopiant leur petit libelle. Aujourd'hui, les journalistes ne veulent pas donner droit à ma parole, ils ne veulent pas donner droit à mon point de vue, à ma cause, à ma lutte, etc. Je fais mon blog, je fais circuler l'information. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le journaliste est obligé d'être participatif et que c'est une bonne chose parce qu'il a ce public qui va l'alerter. Le lanceur d'alerte est à côté, dire « Attendez, vous n'avez pas parlé de ça, vous avez oublié ça ?» Et ça, c'est formidable. Regardez sur l'événement qui a eu lieu ces derniers jours, le probable lynchage de Kadhafi par rapport à la version officielle. Il a été tué et l'OTAN et tout ça, et M. BHL qui va donner la version officielle sur les médias français. Eh bien, tout de suite, des vidéos circulent, tout de suite, grâce à des portables. Et on voit qu'il y a eu quelque chose qui illustre tout ce qu'il y a comme mensonge derrière cette histoire libyenne où on a ajouté de la violence à la violence et où on a toujours défendu finalement une logique qui est à nouveau une logique de puissance. Au lieu de laisser jouer des dynamiques populaires, On ne sait pas qui est le pouvoir libyen. On ne sait pas où sont les assemblées libyennes. On ne sait pas. Alors, on lui dit, il fallait renverser une dictature. Mais on est dans un jeu obscur. Eh bien, vous voyez bien qu'on a des armes pour alerter là-dessus, y compris grâce à cette diffusion des images.
Alors, quand vous faites allusion justement à l'époque de la Révolution française, qui est un peu aussi la Révolution industrielle, qui est un peu aussi la période où on invente le droit d'auteur à la française, on a le même débat aujourd'hui avec cette révolution numérique. Il y a la question de la, entre guillemets, comme dirait Richard Stallman, la propriété intellectuelle, ou même Albert Jacquard est d'accord pour dire que c'est une vaste fumisterie, que ça ne devrait pas exister, en tout cas dans la forme dans laquelle ça existe. Adopi vise aussi à ça, à maintenir une espèce de situation de rente pour un tout petit nombre, etc. Sans parler du 8e rapport de la commission de contrôle permanente des sociétés civiles de gestion de droit qui est sorti au printemps. Et c'est les mêmes problèmes, on a l'impression qu'il se pose, mais vu qu'il se pose à notre époque et qu'il touche aussi d'une façon plus vaste l'ensemble de la population sur la planète, d'où l'impression aussi que les citoyens sont beaucoup plus mondialisés eux-mêmes que ceux qui les dirigent, on a l'impression que tout ça est beaucoup plus violent et s'exprime avec beaucoup plus de force.
Non, je pense que comme toute période de transition, c'est une période d'affrontement, c'est une période de lutte. C'est une période de lutte entre le capital et le travail, où le capital veut profiter d'une révolution industrielle et d'une crise économique pour augmenter ses marges par rapport aux marges qu'avait obtenu le travail. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous travailliez plus longtemps, les retraites. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous reveniez sur vos avantages acquis, etc. C'est une période de lutte. Et dans une période de lutte, c'est aussi une période d'invention. La question n'est pas seulement de défendre l'existant, c'est d'inventer le nouveau aujourd'hui. Et donc, si l'on prend les questions posées en termes de droit, en termes de liberté, eh bien c'est évidemment d'inventer de nouveaux droits, d'inventer, de refonder le droit. Pas au sens d'oublier la tradition, je dis qu'il faut défendre le meilleur de la tradition. Mais il faut défendre le meilleur de la tradition au cœur de cette modernité. Il est évident que le droit d'auteur tel qu'il a été inventé par Balzac et d'autres au début du 19e siècle ne se pose pas de la même manière aujourd'hui où Balzac l'invente par rapport au pillage tout simplement de gens qui se faisaient exploiter et qui étaient au cœur d'une presse qui utilisait les feuilletons des écrivains, etc. Des premiers journaux de Girardin s'appelait Le Voleur, parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur, donc il piquait partout, et avec ça, il faisait un journal, et il l'avait appelé Le Voleur, donc il ne cachait pas ce qu'il voulait faire. Et ça, il a fait fortune avec ça, et avec le journal qui a suivi, qui s'appelait La Presse. C'était l'inventeur de la presse moderne en France. Donc évidemment, je prends un exemple, Mediapart, comme vous le savez, nous nous sommes construits sur un modèle que je n'appelle pas payant, parce qu'il y a plein d'aspects pour avoir accès à Mediapart. Des abonnés peuvent vous offrir des articles, vous pouvez vous faire envoyer des PDF d'articles, les contenus du club des lecteurs de Mediapart sont en accès libre. Mais nous avons créé ce modèle qui est un modèle de création de valeur. Valeur de l'indépendance, on est un journal indépendant, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de puissance financière derrière nous, il n'y a pas de parti politique. Et comme je l'ai dit, ce qui est le cas cette année, dès que nous allons, et c'est, ça va être le cas cette année, gagner de l'argent, je refuse tout centime de subvention de l'État. Donc je ne dépends de rien. Nous ne dépendons que de qui ? De nos lecteurs, qui font cet acte d'abonnement. Bon. Mais cet acte d'abonnement ne nous empêche pas de nous dire qu'on doit rendre notre travail à la collectivité. C'est pour ça qu'on a créé FrenchLeaks, qui est en accès libre, où tous les documents d'intérêt public dévoilés par Mediapart, une fois exploités, sont rendus à la consultation publique, comme une base de données, comme du data journalisme. Et donc, on peut à la fois concevoir la valeur de notre métier, valeur de l'indépendance, valeur de la qualité, valeur d'un public qui nous est fidèle, et en même temps, comprendre qu'à l'époque du lien, c'est tout le débat sur la gratuité. Moi, je dis, il y a deux gratuités. Il y en a une que je revendique. Et j'estime que tout en étant un site sur abonnement, je suis du côté de cette gratuité-là, qui est la gratuité démocratique, gratuité du partage, de l'échange, du lien, gratuité qui, justement, n'a pas de prix. Mais il y a une fausse gratuité qui est le cheval de Troie de toutes les destructions de valeur, qui est la gratuité marchande, la gratuité publicitaire, la gratuité qui dit « je vais créer de la valeur uniquement avec de la publicité ». Et cette gratuité-là, elle est trompeuse. Cette gratuité-là, elle détruit le travail. Et c'est celle-là que j'ai combattue.
Alors justement, nous à Divergence, la révolution numérique, c'est l'informatisation ne s'est jamais envisagée autrement qu'avec des logiciels libres. On voit bien en ce moment
Mediapart est conçu en logiciel libre avec Drupal.
Le modèle économique qu'il y a derrière le logiciel libre, à savoir de vendre du service et non pas des licences, remet d'une part le travail des ingénieurs à sa place et permet de sortir du bon messieurs, c'est compliqué, il me faut 2 jours et puis en fait en 5 minutes on corrige 2 lignes de code et on empoche 2 journées d'ingénieur. Et puis d'autre part, il y a toutes les extensions de ce modèle-là dans d'autres champs de l'activité humaine qui posent beaucoup de questions en ce moment, notamment autour de l'économie solidaire et sociale, puisque plusieurs penseurs commencent à dire oui, mais dans les valeurs qu'il y a derrière le logiciel libre, il y a la réponse à finalement beaucoup de choses. Alors peut-être pas à tout, mais en tout cas, quand on voit que le serpent se mord la queue avec les crises économiques, etc., ou franchement, c'est normal que ça aille mal, vu que c'est mal foutu. Il y a quand même une espèce de révolution autour de cette notion-là, du partage, et puis de vraiment vendre ce qu'on... Alors vous, ce modèle économique à Mediapart, la proportion de contenus librement accessibles et des contenus réservés aux abonnés, etc., tout ce modèle, est-ce que vous l'avez pensé immédiatement, à partir du moment où vous vous êtes dit, tiens, on va faire un truc en ligne, ou est-ce que finalement, il a fallu se poser beaucoup de questions et arriver à trouver le juste milieu, justement ?
Non, c'était l'intuition de départ. Hein. Tout le monde a dit qu'on était fou, qu'on se trompait totalement.
Sauf peut-être les libristes.
Ouais, voilà, non mais sauf, je vais vous dire, par exemple, quelqu'un qui nous a accompagnés depuis le début, qui est Laurent Chemla, que j'avais été voir, qui est quelqu'un qui avait, c'est lui qui avait fait un livre qui s'appelle pas Journal d'un voleur, mais je me souviens plus de qui est quelqu'un qui est né dans tout cet univers et qui est un des activistes du web, comme les gens de la Quadrature du Net, qui sont des amis. Hein, et j'avais été tester ça auprès de Laurent, qui est un ami d'amis, parce que Laurent avait fait Gandhi, hein, et qu'il a revendu depuis. C'est-à-dire, c'est lui qui s'était aperçu que les noms de domaine étaient une propriété américaine. Et donc, il a fait de l'argent avec rien. C'est-à-dire qu'il a, il a créé ça et on achète son nom de domaine. Et donc, il a expliqué cette chose-là. Et puis, il a fait un peu d'argent lui-même. Mais après, il a rendu compte de tout ça et il a expliqué tout ça. Et j'ai été voir, parce qu'il avait eu une expérience de presse en ligne. Je lui ai dit, voilà, moi... J'ai cette idée et qui est au cœur de ce débat. Il faut défendre la valeur du travail et la valeur des travailleurs, en clair. Et il faut la défendre contre ceux qui spéculent, contre ceux qui croient qu'on peut créer de l'argent à partir de l'argent, et contre ceux qui veulent prendre la plus-value que dégage ce travail. Alors que nous, on dit, cette plus-value, on la remet à la collectivité. Par exemple, prenez Mediapart, notre projet n'est pas de faire une entreprise qui enrichisse ses fondateurs. Notre projet, c'est d'en faire, à terme, une société de presse à but non lucratif. C'est-à-dire une société dont les gains soient reversés à la fois à la constitution de l'indépendance, aux rémunérations de ceux qui travaillent et à l'enrichissement de la collectivité. Et donc, j'ai dit ça, c'est-à-dire que mon idée était toute simple, c'est de dire, un jour, pour moi... Le modèle qui dit « je peux diffuser de l'information de qualité, originale, dérangeante, bousculante, d'investigation, je ne parle pas des flux, je ne parle pas du divertissement, je ne parle pas, je peux la diffuser sur un modèle tout gratuit, tout publicitaire », je leur dis, c'était un modèle destructeur de valeur. C'est-à-dire que c'était un modèle qui aboutissait à faire quoi ? Du coup, on est dans une logique d'audience, pas de public, de masse, de foule, nombre de pages vues, nombre de visiteurs uniques, destruction de valeur de la publicité. Donc là où il me fallait 1 pour faire de la publicité sur la presse écrite, là il m'en faut 10, il m'en faut 20, il me faut des millions. Et néanmoins, je perds de l'argent, je cours derrière ça. Du coup, je vais faire quoi ? Je vais racoler, je vais faire de l'audimat, je vais faire de la superficialité, je vais m'éloigner de cela. Donc moi, j'ai dit, je répercute la baisse de coûts. Mediapart est beaucoup moins cher qu'un journal papier. Mediapart, l'abonnement donne accès à toutes les archives. Et il y a un abonnement moins cher si on a moins de 25 ans, si on est sans emploi. Et puis, y compris, on laisse des exceptions. On n'empêche pas quelqu'un de passer ses codes à quelqu'un d'autre. On n'empêche pas que ce soit pour eux. On n'empêche pas que ça circule. Mais avec cette idée presque intégriste de dire... Je crois à la valeur de l'information indépendante. Et donc, je construis sur cette injonction, cette certitude-là. Donc, j'ai été voir Laurent Chemla en disant, toi qui es du côté du logiciel libre, du côté de toutes ces batailles, est-ce que tu penses que je suis fou ? Est-ce que tu penses que je vais à l'encontre ? Il dit, mais non, c'est absolument ça qu'il faut faire. Et simplement, notre choix, ça a été de se dire, pour y arriver, ça a surpris tout le monde au début, on s'est dit, on va lancer un caillou dans l'eau. On va voir si ça marche. Si en fait, aujourd'hui, vous savez, on a un peu plus de 56 000 abonnés à Mediapart. Mediapart va être, je dis toute proportion, l'entreprise de presse la plus rentable. Je dis, la rentabilité est faite, ça nous a coûté 5 millions hein, pour arriver à ça. On va faire cette année 5 millions de chiffre d'affaires et on va dégager 500 000 euros de résultats nets. C'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires. Personne ne fait ça en presse.
Oui.
Personne ne fait ça en presse. Et donc, sans pub et sans subvention de l'État, puisque les années déficitaires, on avait accepté 200 000 euros sur des développements techniques, faits comme tout le monde, hein, tous les sites avaient accepté ça. Mais j'ai dit, à partir du moment où on rentre dans un moment où on dégage, on n'est plus en perte, je ne fais pas, je ne veux plus un centime de l'État. Et donc, cette idée, encore une fois, pour moi, et tout l'enjeu, c'est la suite. C'est et Mediapart, voilà. C'est un laboratoire. Nous allons tenir le 16 février à Paris une réunion publique pour exiger une nouvelle loi pour la liberté de l'information, comme la loi de 1881, une loi fondamentale, dont le premier point sera le droit d'accès au numérique, un service public d'accès au numérique. Le numérique, c'est un droit fondamental. Et je ne peux pas laisser aux opérateurs le fait hein, de varier les tarifs et de m'empêcher de charger ce que je veux. Parce que c'est par le numérique que j'ai accès à l'information, que j'ai accès aux services, aux billets les moins chers de TGV et à plein de choses pratiques, y compris des aides à la personne. Bon, c'est un enjeu démocratique. Donc nous allons mener cette bataille et y compris nous allons mener cette bataille pour que Mediapart, au fond, soit la revanche prise sur les batailles perdues. Parce qu'on a perdu des batailles. On en a perdu au Monde, on en a perdu à Libération. Nous n'avons plus de journaux de journalistes. Tout ça, c'est des propriétaires extérieurs au métier de la presse. Ce ne sont plus des journalistes qui en sont non seulement les actionnaires qui ont en contrôle les sociétés de rédacteurs, mais même les directeurs de publication ne sont plus des journalistes. Donc on voit bien que notre écosystème a régressé. Donc il faut reconquérir cette dynamique, non pas par corporatisme, mais au service du public.
Ce qui veut dire que le marché du travail, il s'ouvre vers des médias modernes, on va dire, qui fait que beaucoup de journalistes, en tout cas qui sont intitulés comme tels, soit ils ont du mal à trouver du boulot parce qu'effectivement ils sont un peu trop intègres ou un peu trop journalistes, soit ils manquent d'employeurs potentiels.
C'est un moment de transition, à tout point de vue. Hein. Nous vivons une époque de transition, un peu comme le fut la Renaissance. La Renaissance, c'est plein d'inventions, et en même temps, c'était les guerres de religion et beaucoup de barbarie. Nous sommes dans ce moment-là. Hein. Et attention, l'histoire n'est pas écrite, ça dépend de nous, la suite. Si je m'en tiens aux journalistes, moment de transition, bien sûr, quand vous êtes dans l'existant, vous êtes à midi libre, on vous annonce un plan social alors qu'ils ont touché plein d'argent de l'État et qu'ils n'ont pas su faire les modifications, et ils demandent aux salariés de payer le prix. Le Monde, son imprimerie, 4 jours en grève. Les Échos en difficulté, la Tribune devant le tribunal de commerce, François, je pourrais multiplier les exemples. Bien sûr que dans l'existant, mais j'ai envie, sur Divergence, de vous dire ce que je dis à mes étudiants en Master 2 de métier de journalisme ici à Montpellier. Je dis, il faut que vous écriviez cette nouvelle page. Il ne faut pas que vous soyez passif. C'est un moment de création. Moi, je suis d'une génération qui, ayant perdu des batailles, a été obligée de se remettre en cause. Donc, nous nous sommes remis en cause. Nous avons rejoué la donne. Parce qu'il nous est arrivé de perdre des batailles et ça nous a appris des choses. Ça nous a fait réfléchir. Mais vous êtes devant une page nouvelle. Je prends un exemple. Quel est le pire problème de pluralisme de la presse dans notre pays ? C'est la PQR, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale. Ces quotidiens qui sont uniques, qui dominent, qui du coup n'ont pas la compétition et la concurrence qui les bouscule. Et qui, du coup, sont sur des rentes de situation, rentes de publicité des collectivités locales, rentes de situation avec les pouvoirs locaux, et qui ne se remettent pas en cause. Le numérique, mais est-ce que ce n'est pas la meilleure façon d'inventer une presse de proximité aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est la locale de Midi Libre ? Mais qu'est-ce que serait la locale d'un média participatif ? Alors, il faut que des gens risquent. Des confrères de Midi Libre qui... Non pas, moi je vais vers la soixantaine, donc c'est vrai que c'est plus difficile de se mettre en cause à cet âge, mais qui ont la quarantaine. Pourquoi ils ne prennent pas les indemnités ? Pourquoi ils ne se tournent pas vers des jeunes du master de l'université de Montpellier en disant « Et si on trouvait ici quelques personnes, nous on a bien fait une société des amis de Mediapart, avec 88 donateurs, qui a réussi à collecter un million d'euros. Mmh. Et on leur dit, eh ben, on va faire un vrai journal indépendant. Et sur un modèle de création de valeur. Il y a des expériences en région. Mediapart, on est partenaire d'un journal qui s'appelle en ligne, hein, Dijonscope, de Mars Actu à Marseille, et puis aussi de Montpellier.
Montpellier Journal.
Journal qui fait des articles pour, bien sûr, qui fait des articles pour Mediapart. Donc, il faut ce bouillonnement, il faut cette invention. Bien sûr que c'est un moment difficile, bien sûr que c'est un moment de bataille. Mais dans ce moment de bataille, il faut aussi créer, il faut aussi inventer. Alors, je reconnais, hein, il y a beaucoup de clichés dans l'éloge de... Vu que Apple, c'est un peu back to USSR, c'est la clôture sur... Je suis très Apple en termes de technologie, mais je comprends tout à fait les critiques qui ont été faites, et puis sur l'empire économique que c'est aujourd'hui. Mais quand, au début, Steve Jobs dit « Ayez faim, soyez fous », et qu'il est lui-même issu des logiques de contre-culture, de bricolage, et c'est comme ça qu'il va devenir bouddhiste, et c'est comme ça qu'il va aussi inventer un chemin dans un cadre américain qui n'est pas tout à fait les mêmes politisations que nous, etc. Bon, ben, je pense que nous sommes devant ce moment-là. Moi, j'attends que ce que nous avons voulu faire avec Mediapart, dans un genre très particulier, d'un journalisme assez austère, bon, on veut être compétitif face à la presse dite de référence. Moi, j'estime qu'avec Mediapart, on fait une nouvelle presse de référence nationale. Mais ce que je voudrais, c'est que ça donne envie. Ça donne de l'audace et du courage à d'autres.
Ben, disons qu'il faut le souhaiter. On a vu des exemples sur Internet de médias collaboratifs qui sont un petit peu passés de mode ou cassés la figure. La part justement de le laboratoire, la part de quotidienne de remise en question, elle est nécessairement plus importante que dans un truc qui ronronne, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut la chiffrer, cette part de remise en question par jour? Là où on se remettait en question 1% par jour auparavant, c'est quoi? C'est 30%?
Non, mais on peut la chiffrer.
Parce qu'il faut aussi... Les technologies d'Internet évoluent très rapidement.
Oui,
le look and feel d'un site Internet, il doit évoluer constamment, etc. Il faut des gens qui soient un peu en veille sur les nouvelles technologies,
Mediapart,
le langage de programmation, etc.
Sûr. Mediapart, c'est aujourd'hui 39 salariés à plein temps, dont 27 journalistes, ce qui veut dire qu'il y a 12 non-journalistes avec une équipe technique qui est de 4 membres déjà et qui va continuer à grossir. Et de plus en plus, nous faisons nous-mêmes. Par exemple, il y a tout le débat actuellement avec l'arrivée du HTML5 qui va permettre, notamment sur les applications pour Android et pour les autres smartphones que la domination de l'iPhone, de faire nous-mêmes des innovations. Là, par exemple, on vient de faire une innovation qui est une... Nos innovations à Mediapart ne sont jamais purement technologiques. Elles sont pensées d'abord par rapport au contenu. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on fait circuler dans les tuyaux. Et à partir de ce moment-là, on pense l'accessibilité. Et quand je dis que je suis de culture très, par rapport à l'informatique, très de consommation très Apple, parce que pour moi, l'invention originelle d'Apple, c'est cette idée que ce n'est pas la technique, ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter à la technique, c'était l'idée d'une technique qui séduit et qui... s'adapte à l'homme elle-même, d'où le feuilletage, d'où cette accessibilité, cette practicabilité. Donc, chez Mediapart, on réfléchit comme ça. Par exemple, Mediapart, nous sommes sur une radio depuis lundi dernier. Nous nous sommes lancés sur, non pas une web radio, mais désormais, il y a des sons.
Hein.
On peut écouter Mediapart, on peut podcaster, on peut suivre ce fil, aussi bien des chroniques, aussi bien des conférences, aussi bien des débats. Et un jour, ça donnera peut-être une radio. On peut les écouter en streaming, hein. D'ailleurs, on peut continuer. Et donc, il y a maintenant des archives sonores qui se créent. Nous allons probablement, d'ici quelques temps, avoir la possibilité de faire des petits e-books qui sont faits à partir de nos articles. C'est-à-dire d'arriver, de dire, bah tiens, l'alibi, je voudrais avoir le dossier de Mediapart, mais comme un petit livre que je peux lire sur Kindle, que je peux lire. On va essayer de faire ça. Donc, il y a toutes ces inventivités, nous travaillons dessus. Mais ce qui est intéressant, ce qui est la preuve de ça, c'est qu'à Mediapart, bah, le gros des coûts, c'est quoi? Mais au plus de 90%, c'est les salaires.
C'est normal.
C'est les salaires. Et oui, bien sûr que c'est normal, mais ce n'est pas du tout l'économie de la vieille presse. Et donc... À partir d'une révolution technologique qui forcément a l'avenir devant elle, parce qu'elle supprime 3 coûts de ce que j'appelle la vieille presse dont je viens, hein. Donc c'est pas par mépris, elle supprime le papier, c'est écologique, elle supprime l'impression et c'est un peu une industrie lourde, et elle supprime la distribution qui est un poteau noir qu'on avait du mal à contrôler, et puis désormais là, c'est l'accessibilité directe s'il y a le haut débit. Donc une industrie, ça c'est... En 60-65% de ce que vous payez quand vous achetez un journal. Le papier, l'impression, la distribution. Donc, Si une invention permet de supprimer ces trois dépenses, elle est forcément gagnante. C'est pour ça que je dis que le numérique est au cœur. Le numérique sera au cœur de l'ensemble de nos métiers. Mais après, il y a quel type de contenu je fais, quel type de modèle économique je fais. Mais du coup, où est-ce que je mets la valeur? Et nous, on la met sur ce capital humain qui n'a pas de prix. Et c'est lui qui crée cette innovation. Et l'innovation... À Mediapart, il n'y a pas d'un côté les 12 qui font... Par exemple, il y a des innovations à Mediapart, je vais dire des gros mots, mais on fait un journal. C'est une marchandise très particulière, l'information. C'est un bien commun aussi. Mais comment il va atteindre son lecteur? Comment il va le fidéliser? C'est quoi le marketing, au sens avec 4 guillemets? Comment on fidélise? Alors nous, notre philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'autre ruse que de donner des contenus. De dire, voilà nos contenus, voilà comment vous pouvez y avoir accès, voilà comment d'avoir un service qui puisse répondre à l'abonné, qui puisse lui expliquer, qui puisse l'aider, qui puisse, y compris, l'avoir directement au téléphone, pour que ce ne soit pas...
Un serveur vocal.
Oui, un serveur vocal. Nous sommes le seul journal où quand, par exemple, sur un contenu pose est mal reçu par les lecteurs, leur pose problème. Par exemple, on avait demandé des interviews à tous les candidats aux primaires et Martine Aubry a dit « bah oui, je veux bien, mais elle n'a pas trouvé de créneau » et Ségolène Royal non plus. Je parle des primaires socialistes. Donc avant le premier tour, il y en a un qui, lui, a trouvé le temps. C'était François Hollande. Donc nous, on a eu un débat. On dit « bah tiens, est-ce qu'on le fait alors que c'est juste avant le premier tour ?» Ou est-ce qu'on ne le fait pas? Dit, bah, les autres, ils avaient qu'à répondre. Oui. Donc, on a tout rendu en transparence et on a fait l'interview de François Hollande. Musclé. Du coup, bonne interview, parce que quand c'est musclé, la personne répond. Mais du coup, il y a des lecteurs, front de gauche, pro-ségolénistes, pro-Aubry, qui ont dit « quel scandale, vous donnez la parole, c'est inégal ». Donc nous, on a tout expliqué. Mais non seulement on a tout expliqué, mais dans le fil des 500 commentaires, c'est moi-même qui ai répondu. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans un journal où le directeur vient répondre au lecteur en disant « je vous explique avec des longues réponses ». Et ça crée de la confiance. Ça crée... On est loin du côté recherche et développement, parce qu'au fond, c'était votre question, hein, mais qui est au cœur de ce qu'on doit faire. Et je pense que tout ça doit se développer. Mais comment dire, à Mediapart, par exemple, il y a toutes les semaines de nouvelles mises en production et d'amélioration du site, hein, y compris qui ne sont pas très spectaculaires. Mais jamais un développement n'est fait sans débat éditorial avant. Et sans réunion collective où il y a la technique, le commercial, entre guillemets, c'est-à-dire le lien avec les abonnés, et la rédaction qui valide ce qu'on va mettre en ligne, qui valide ce qu'on veut faire. Et donc, on est dans une entreprise totalement horizontale, à tel point même, c'est intéressant, puisque là aussi, il faut créer du droit social. Par exemple...
Mais quand je dis recherche et développement, ça concerne aussi
le journalisme.
Le social.
Par exemple, le droit social. On crée une entreprise de presse en ligne. Il n'y a pas de convention collective propre à la presse en ligne. Mais il y a une convention collective des journalistes. Mediapart, j'ai dit, on aligne vers le haut. Donc on aligne vers le haut. La convention collective des journalistes fait qu'il y a 13 mois, qu'il y a un 13e mois. Donc on aligne vers le haut. Tout le monde aura un 13e mois. Les salaires sont publics. La hiérarchie des salaires, hein, l'échelle plutôt des salaires. À Mediapart, elle est de 1 à 3. Actuellement, Jean-Luc Mélenchon, comme c'est la position de la Confédération européenne des syndicats, c'est de 1 à 20 à l'idéal. Hein. Bon, on a de la marge encore.
Ford disait de 1 à 4,
voilà,
c'était une
voilà.
Autre époque.
Oui, voilà. Et on pourrait dire, moi je dirais, on peut aller jusqu'à 1 à 5, mais avec l'augmentation des effectifs, des âges et tout ça. Mais bon, de 1 à 3 et personne n'est mal payé, quoi. Hein, voilà. Mais j'avais un objectif avec Mediapart. Je ne voulais pas que la création, comme on dit, des startups, Mediapart n'était pas une startup, il y avait tout de suite. C'est pour ça qu'il a fallu trouver un peu d'argent, s'endetter. On s'est endetté personnellement. Aujourd'hui, on aurait du mal avec les banques, en parenthèse. Mais moi, je voulais qu'il y ait les moyens de créer ces contenus et que ce soit possible. Mais en faisant ça, mon pari... puisque nous ont rejoint d'emblée des journalistes qui ont quitté des postes où ils étaient. Le gros de la rédaction de Mediapart a autour de la trentaine. Mais je ne voulais pas répéter ce que j'avais vu dans la vieille presse, où les sites web issus de la vieille presse étaient aussi des lieux d'expérimentation négative en termes de régression des droits des salariés, en termes de précarité, en termes de stagiaires qu'on faisait tourner, en termes de petits contrats courts et tout. Et je ne voulais pas que ce soit ça. Je voulais montrer aussi qu'on pouvait créer de la valeur et tirer tout ça vers le haut, y compris en termes de droits sociaux. Donc, je redis encore une fois, c'est pour ça, hélas, il n'y a pas beaucoup de compte-rendus hein, dans la presse française sur ce que nous sommes économiquement et ce que nous faisons, hein, ce qui fait que c'est pour ça que je vous le raconte un petit peu en détail, mais pour montrer qu'il y a un laboratoire là, mais qui est disponible pour tout le monde. Tout le monde doit s'en inspirer pour voir comment on peut faire. Alors après il y a les situations concrètes et locales.
Oui, parce que c'est vrai que Mediapart a un échelon national ou même francophone, hein, puisque c'est online, oui. Peut faire des choses qu'on ne pourrait peut-être pas nécessairement faire à l'échelle locale.
C'est un vrai débat. J'attends, j'aimerais qu'il y ait un laboratoire semblable qui se lance. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup ce que font Dijon Scope, Mars Actu, etc. Et j'aimerais bien que ce soit fait d'ailleurs dans une dialectique entre, en effet, des gens issus de la vieille presse qui savent quelle intégrité de leur métier ils veulent défendre et des jeunes... Hein, et d'inventer quelque chose de semblable. On a créé un syndicat professionnel, le SPIL, syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Et dans ce syndicat, on mutualise nos débats, y compris on a une commission technique où les directeurs techniques des sites mutualisent leur veille, etc., technologique. On mutualise nos questions juridiques. Quelle invention de droit, en égalité de droit, en débat pour que la loi garantisse, aille du côté de la liberté et pas du côté de la frilosité, pas du côté d'une crispation sur le passé. Bon, eh bien, il y a de plus en plus de sites locaux qui viennent. Il y a une commission des sites locaux qui est animée par Sabine Torres, la rédactrice en chef, la créatrice de Dijon Scope, lequel Dijon Scope, par exemple, m'a annoncé récemment qu'ils envisagent de passer à un modèle payant. Donc on va voir comment, si c'est possible de faire vivre sur un modèle payant, un site d'information indépendant, sans publicité. On va voir et elle essaye, elle veut nous voir pour travailler ça, pour être indépendante des pouvoirs locaux. Hein. Bon.
En tout cas, oui, la route est longue, mais la voie est libre, comme on dit chez Framasoft. Edwy Plenel, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants pour parler principalement de Mediapart. Peut-être une autre fois, on pourra parler de Notre France, qui est sorti le 5 octobre, si je ne me trompe pas, un recueil de conversations.
Avec Farouk Mardambeh et Elias Sambar. L'un est né en Syrie, l'autre est né en Palestine. Ils sont tous les deux français, mais aujourd'hui, sous cette présidence, on appelle ça des Français d'origine étrangère. Et moi, qui suis un Breton d'outre-mer, qui suis issu d'un déplacement qui est lié à la relation de la France au monde via son empire colonial et les indépendances, puisque j'ai grandi aux Caraïbes, puis ensuite dans l'Algérie indépendante. On a voulu, avec cette conversation, ne pas leur laisser la France. Quand je dis leur, c'est à ceux qui donnent à la France une image de haine, de repli, de coupure du monde, de crispation identitaire. Et on a voulu dire que, eh bien non, la France... Et fondamentalement, d'un point de vue politique, du point de vue de ses valeurs démocratiques, elle est née, elle est nourrie, elle est tissée d'une relation au monde, d'une ouverture au monde. C'est ce qu'on a voulu défendre par ce livre qui s'appelle « Notre France ».
Et qui est sorti chez
Sinbad. Sinbad qui fait partie d'Actes Sud, donc c'est pas loin.
C'est pas loin, c'est voilà. Local. Merci beaucoup, Edwy. Au revoir.
Merci à vous.
C'était un entretien avec Edwy Plenel sur Divergence FM, mené par Gilles Gouget avec Bruno Bertrand à la technique. Montage et réalisation, Gilles Gouget, une production Divergence FM. Les illustrations musicales sont signées Pacou de Montpellier en licence Creative Commons by NCND 2.5.